à ouvrir vos Bibles à 2 Corinthiens chapitre 5. Nous reprenons cette série, le prix d'un ministère efficace. On va d'abord lire Philippiens 2, excusez-moi, mais le sujet se portera sur 2 Corinthiens 5, 14 à 6, 10. On va donc lire Philippiens 2, 13 à 15. Philippiens 2, 13 à 15, en guise d'introduction. Peut-être verset 12, parce que ça commence le paragraphe. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre ou travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Alors, c'est pas comme ça que notre vie se déroule toujours, mais c'est comme ça que Dieu nous voit notre vie. Vous avez jamais vu, par exemple, un campus ou un bel immeuble vu par l'architecte. Il fait une maquette. Alors généralement, il met de l'herbe verte, il met quelques branches, il fait des dessins, et c'est vraiment très très beau. Ça ressemble presque au paradis. Et on dit ça, c'est la conception de l'architecte de cet immeuble. Bon, si vous allez 30 ans plus tard, si c'est par exemple dans une espèce de zone d'habitation populaire, les fenêtres sont défoncées, les interrupteurs sont brûlés par des briquets, il ne reste pas grand-chose de cette magnifique concept architectural. Mais le Seigneur, lui aussi, il a une vue d'architecte de ce que doit être le chrétien. Il voit ses enfants briller comme des points lumineux dans un monde de gens dans les ténèbres. Il nous voit éclairant notre voisinage avec la lumière de Dieu qui transparaît à travers notre vie. Si vous préférez, il nous voit comme de grandes fenêtres qui donnent la lumière du jour dans une pièce obscurcie, où il n'y a pas de lumière artificielle. Il n'y a que les fenêtres qui éclairent la pièce et ce qu'il y a dedans. Et c'est nous qui sommes la lumière du monde. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui sommes lumineux. C'est la lumière de Dieu qui passe à travers la fenêtre que nous sommes. Nous ne sommes que des transmetteurs de lumière. Et donc, Dieu lui-même fait ce travail en nous. Il veut qu'on accomplisse sa volonté. Alors, on voit bien dans le verset 12, comment est-ce qu'on va briller comme dans le monde. Imaginez que, et d'ailleurs ça c'est le cas dans certaines villes, vous avez une petite zone en dehors de la ville où vous avez des petits cabanons en bois, et c'est des petits terrains de jardin. Et les gens peuvent avoir une concession de travail, un petit lopin de terre, et ils ont les jardins les uns à côté des autres. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les gens avec les 100 ou 200 mètres carrés qu'on leur a donné à travailler. J'en ai certains, il y a un cabanon qui est mignon, il y a tous les outils qui sont là, vous avez des rangées de concombres, de haricots verts, de radis et tout, et puis on voit que ça produit, et le gars il est là le matin et le soir encore, et on voit que l'homme passe une bonne partie de sa journée dans son jardin, et ça se voit, c'est magnifique, c'est bien tiré, c'est formidable. Puis vous en avez d'autres qui l'ont réduit simplement en pelouse, avec une table de pique-nique et 4 chaises, on voit bien qu'ils n'y travaillent pas, ils se prélassent là-bas, et leur cabanon est bon, tient de briques et de broc, mais bon, ça tient la table, les chaises, et voilà. Et puis vous en avez d'autres, que c'est la savane, c'est la forêt sauvage, sur leur petit terrain, et on voit qu'ils ne s'en occupent pas, ils n'y vont pas. Eh bien, c'est exactement comme ça, les chrétiens, notre vie chrétienne est comme un jardinier. Moi j'ai un espace jardin, mais j'ai pas de jardin. Je suis trop paresseux là-bas pour travailler. Mais si je travaillais ma terre, je pourrais en faire des fruits et des légumes. Mais je vais vous dire à vous que je n'ai pas le temps. Je pense que la vraie raison, c'est que je n'aime pas travailler. Dans tous les cas, je n'en fais rien. Et je me dis, chaque année, il faudrait que j'enlève les barrières parce que ça fait vraiment désordre d'avoir un espace jardin sans qu'il y ait des jardins. Et si vous êtes énergique et tout ça, vous avez un endroit, un magnifique jardin, ça fait votre fierté et tous les voisins l'admirent. Notre salut nous a été donné comme un espace de jardin. Tous les chrétiens ont le même espace de jardin. Mais certains travaillent la terre, ils mettent l'engrais, ils mettent des bonnes semences, enlèvent les mauvaises herbes, et leur vie chrétienne produit beaucoup, beaucoup d'œuvres. Et nourrit beaucoup de gens. Et d'autres, leur vie chrétienne, elle est plutôt laissée en friche, et même beaucoup de gens ont du mal à croire que ce sont des chrétiens. C'est très rare qu'on voit vraiment une évidence qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. D'accord. Et donc, dans le plan d'architecte que Dieu a pour nous, il nous voit tous en train de travailler activement dans le jardin de notre vie chrétienne pour y produire des grâces, des bénédictions, de la lumière, du témoignage, de la joie, une bonne réputation. Il nous voit tous en train de labourer notre vie chrétienne pour en faire le plus de fruits possible. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Ça, c'est verset 12. Verset 13 nous dit d'où vient cette énergie. C'est le Seigneur qui donne le désir et la puissance de faire ce travail-là. Donc aucun chrétien n'est obligé de dire « Je peine beaucoup pour ma vie chrétienne, mais est-ce que vous croyez que Dieu m'adorait ?» Non. Beaucoup de chrétiens pourraient dire « Je n'en fais rien, mais je me sens coupable et je suis troublé parce que Dieu met dans mon cœur le désir de vivre pour lui. » Mais j'ai pas envie, ou le péché me tente, mais il y a quelque chose en moi qui aspire à cette pureté. Donc, le vouloir vient de Dieu, le fait même de désirer vivre pour lui vient de lui. Puis la puissance de vivre pour Dieu vient de Dieu aussi. Ça, c'est verset 13. Puis verset 14, c'est l'attitude. Alors, cette attitude, on pourrait en parler longtemps, mais une des principales choses que les gens voient, qui les touche, c'est notre attitude. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de bien aux autres. Vous êtes chez eux, vous travaillez pour eux, vous rendez des services. Mais si vous tirez toujours une tête, et les gens disent merci de ce que vous avez fait pour moi, de toute façon c'est normal, hein, moi je fais ça, c'est comme ça, il faut que je le fasse, c'est comme ça quoi, je suis comme ça, bon, j'y peux rien, je rends service à tout le monde, je croyais que les gens me rendaient service à moi, niet, mais moi je rends service, c'est toujours moi qui donne. Et, alors ils travaillent, mais leur attitude est tellement pourrie que les gens se disent, mais pourquoi il rend service, il n'a pas l'air de vouloir le faire. Il le fait avec tristesse, il le fait en grognant, il le fait, mais il n'a pas plaisir à le faire. Qu'est-ce qui se passe? Donc notre attitude est essentielle pour témoignage. Et faites ce que vous faites sans murmurer et sans hésiter. Combien de gens, combien d'entre nous, on fait tout ce qu'on fait sans murmurer et sans hésiter? C'est plutôt rare, n'est-ce pas? On le fait, mais en râlant un petit peu. Si le Seigneur est venu sans râler, là on comprendrait mieux. Il est interdit de râler dans la vie chrétienne. Excusez-moi de le dire, mais râler, se plaindre, ça ne fait pas partie de la vie chrétienne. Ça n'a pas de place dans notre vie, du moins selon la parole. Et donc cette attitude fait que tout cet ensemble de choses, le travail à notre salut, le vouloir et le faire que Dieu nous donne, notre attitude verset 14, fait que verset 15, on a un témoignage lumineux qui touche énormément les gens. Et la vision d'architecte de Dieu est accomplie. Donc, nous avons à briller. Alors, on ne va pas pouvoir briller si on ne fait jamais rien pour les autres. On ne peut pas être chez soi, toutes les fenêtres fermées, dans son salon, sans personne autour, et puis « je brille pour le Seigneur ». Si vous avez une lumière allumée dans une pièce qui est fermée et que personne ne va jamais, c'est pas la peine de garder le lieu. Ça n'éclaire rien, je veux dire, ce n'est pas la peine. Rien dans la pièce n'a besoin d'être éclairé. Donc, quand il parlait d'être flambeau, ça veut dire qu'on est obligatoirement en contact avec les autres. Contact avec les autres. On va donc regarder maintenant 2 Corinthiens 15, 5, 14. Et quel est le travail que nous avons à faire les uns auprès des autres? Bon, c'est un peu long, mais c'est très intéressant ce passage de 2 Corinthiens 5, 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs, comme né en rien, et nous possédons toutes choses. Rien que sur le plan littéraire, n'est-ce pas un chef-d'œuvre ce texte? N'est-ce pas d'une beauté incomparable, d'une éloquence inouïe? Mais le thème est encore plus beau que le style. Revenons rapidement. Dans le verset 14, on a la logique de l'apôtre et de tous les chrétiens. Jésus-Christ est mort pour moi. Il m'a donné la vie. Cette vie que j'ai, à qui je dois la donner? Mais à lui. Je ne vis plus pour moi-même et mes intérêts personnels. Je vis pour les intérêts de celui qui a donné sa vie pour moi. Ma vie est au service de Dieu. C'est la base. Verset 16. Je pose mon regard sur les autres. J'en vois qui sont grands, petits, vieux, jeunes, beaux, laids, gros, maigres. Désormais, ça ne compte plus toutes ces distinctions humaines. Une seule chose qui compte, est-ce que cette personne est en Christ ou n'est-elle pas en Christ? Est-elle enfant de Dieu ou est-elle perdue? C'est la seule chose qui compte. Il dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. On ne regarde plus ça, on les regarde sur le plan spirituel. Et donc, verset 17, si quelqu'un passe et se met en Jésus-Christ, il a un nouveau départ, c'est une nouvelle création. Dieu fait un travail nouveau et toute sa vie doit changer, toute son attitude doit changer. Et d'où vient la puissance pour faire ça? Et pourquoi doit-il changer? Mais parce qu'il est maintenant réconcilié avec Dieu. Ça c'est verset 18. Donc Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Comme disait Adrien, Nous avons été réconciliés avec Dieu parce qu'on a cru un message. Mais ce message nous a été donné par quelqu'un d'autre qui, lui, avant nous, a été réconcilié avec Dieu et qui nous en a parlé. Donc, la logique veut que je me tourne vers mon prochain et que je fasse le même travail auprès de lui que l'on a fait envers moi. Si vous voulez mieux, nous sommes comme dans l'armée, ils ont un corps d'ingénieurs et puis dans la vie civile aussi, ils ont une école qui s'appelle Ponts et Chaussées. Vous avez entendu parler de l'école des Ponts et Chaussées. Et à l'époque, surtout au début, c'était une école pour construire des ponts et entretenir des chaussées. C'est très important. Sans ponts et chaussées, on ne se déplace pas. À la première rivière, on arrête. Parfois, les ponts se dégradent. Il faut les réparer. Donc, nous avons un travail de ponts et chaussées, nous autres chrétiens. Envers les gens qui ne connaissent pas Dieu, il s'agit de construire un pont. Envers les gens qui connaissent Dieu, mais dont la vie chrétienne se dégrade, il s'agit de réparer le pont. Et donc, ce travail de réconciliation, c'est de mettre en ordre les relations entre Dieu et les gens. Entre quelqu'un qui est inconverti et un Dieu saint, il n'y a pas de relation. Coupure à cause du péché. Notre responsabilité, c'est de leur donner la bonne nouvelle, afin que l'Évangile puisse faire tomber cette barrière et qu'un pont puisse être fait, qu'il puisse avoir accès avec Dieu. Comme vous et moi, nous l'avons maintenant. Quand un enfant de Dieu néglige sa vie chrétienne, son pont commence à se défaire et commence à être détruit et sa relation avec Dieu ne va pas bien. C'est un peu comme quand vous essayez de capter le téléphone portable ici, les signaux ne sont pas très clairs et pas très constants, et il s'agit d'améliorer le contact entre cette personne et Dieu, réparateur de pont ou réparateur de brèche, pour employer un verset biblique. Nous avons donc en nous la parole de la réconciliation. Et donc, nous allons de la part de Dieu vers les autres et nous leur demandons et nous les invitons à se réconcilier avec Dieu. Ça, c'est le ministère de la réconciliation. Nous sommes des diplomates, si vous préférez. Un diplomate, je pense au président Obama qui a nommé très tôt un monsieur pour aller au Moyen-Orient et aller voir les Palestiniens, les Israéliens, les Palestiniens, les Israéliens, et puis il fait la navette continuellement, je ne sais pas combien de dizaines de fois il a fait, pour essayer de rapprocher les points de vue, pour faire une réconciliation. Y arrivera-t-il? On ne sait pas, mais en tout cas, il essaye. Il essaie de bâtir un pont de réconciliation. Mais lui fait des dizaines et des dizaines de voyages. Et nous, écoutez, je lui ai parlé une fois, il n'a pas voulu écouter, donc je crois que mon travail est fini. Je n'ai plus parlé à cette personne parce que la fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est pas comme conciliateur, il y a mieux. On peut peut-être recommencer, prier pour cela. Et donc nous, on demande aux gens d'être réconciliés avec Dieu. Et comment est-ce qu'ils peuvent être réconciliés avec Dieu? Le secret, c'est le verset 21, c'est par la substitution. Jésus qui n'a jamais connu le péché, il est devenu péché pour nous, il a assumé nos péchés, et Dieu le Père a jugé notre péché sur lui, et puis Dieu nous donne sa justice et nous l'attribue. Il y a un transfert, il a transféré notre péché sur Jésus, il transfère la justice de Jésus sur nous. Il y a une substitution, il y a un double transfert, et c'est comme ça que Dieu arrive à se réconcilier avec les hommes pécheurs. Alors, il dit versets 1 et 2 du chapitre 6, nous avons reçu ce salut à titre personnel. Et maintenant que nous sommes sauvés, nous ne devons pas être un sujet de scandale ou de blâme. On ne doit pas donner à Dieu une mauvaise image. Des gens ne doivent pas avoir de Dieu une image négative à cause de nous. Nous vivons dans un pays où les gens ont une très mauvaise image de Dieu. Et pour la plupart d'entre eux, cette mauvaise image est due à ce qu'une certaine église dite chrétienne leur en a dit. Et c'est pas autant ce que cette église leur en a dit, c'est ce qu'elle a dit d'une part et comment elle a agi d'autre part. C'est ça qui a causé problème. Parce que vous savez, les gens de la rue, s'il faut prier la Vierge Marie ou s'il ne faut pas la prier, ils ne sont pas compétents pour savoir si on dit mais c'est une sainte, c'est la mère de Jésus, c'est la mère de Dieu, ok, je peux accepter ça, je n'en sais rien, hein. Si vous le dites, vous devez savoir mieux que moi, vous avez tué la question, ok. Qu'on dise un prêtre ne doit pas se marier, si vous le dites, ça me va. Et après, bien sûr, quand les gens étaient dans des écoles catholiques, et beaucoup de gens racontent ça, les sœurs nous battaient, elles étaient très sévères, elles étaient méchantes, on avait le droit de rien, c'était inflexible, jamais ils nous disaient qu'ils nous aimaient, machin, et puis, si ça c'est Dieu, donc, on disait Dieu est un Dieu d'amour, et puis on ne voyait pas l'amour de Dieu dans les personnes qui étaient censées le représenter. Le prêtre, il dit, il me pardonne mon péché, et j'appris après qu'il est un pédophile. Comment peut-il pardonner mon péché et représenter Dieu, et en même temps être un criminel? Si ça, c'est Dieu, je n'en veux pas. Ils ne disent pas, je ne crois pas en Dieu. Ils disent, l'image qu'on m'a donnée de Dieu m'a dégoûté de Dieu. Et ils mélangent Dieu et l'image qu'on leur en a donnée. Et donc, Paul dit, si nous voulons bâtir la réconciliation entre Dieu et les hommes, nous ne devons pas scandaliser les gens par notre manière de vivre. Et c'est tout le sens de ces dix versets. Et donc, il dit, versets 4 et 5, il dit, nous nous efforçons d'être crédibles, recommandables. Si un de vos amis avait un contact avec un ami inconverti. Et votre ami disait, comment je vais faire que mon ami inconverti puisse vraiment croire à l'Évangile? Est-ce que votre ami vous proposerait d'aller voir cette personne? Est-ce que votre ami dirait à son ami inconverti, mais je connais quelqu'un, elle s'appelle Nicole. C'est une chrétienne comme ça, tu vas voir, tu vas parler avec elle, et là, je suis sûr que tu vas croire en Dieu parce que vraiment, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu, je la connais, et je te prie de croire que vraiment, sa vie est convaincante. Mettez votre nom à la place. Est-ce que l'on nous recommanderait pour aller parler à quelqu'un qui a du mal à croire en Dieu parce qu'on nous trouve crédibles? Paul dit, nous cherchons, nous faisons tous nos efforts pour nous rendre crédibles quand nous parlons de Dieu. Et ne pas donner aux gens une mauvaise image de Dieu et une mauvaise image du message. Comment est-ce qu'on peut se rendre recommandable? Verset 4, et puis il donne toutes les manières dont on peut être recommandable. Par beaucoup de patience dans les tribulations. Ça veut dire quoi? Quand on est en tribulation et en difficulté, l'apôtre Paul refusait de garder cette attitude. J'en ai marre, les très épreuves, ça pleuve, ça tombe, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Je suis quand même l'apôtre Paul, j'ai fondé des églises, et maintenant, je suis malade, j'ai une maladie des yeux, je suis tout recourbé, j'ai mal partout, parce qu'on m'a jeté des pierres, parce que je parle du Seigneur, et oula, je ne sais pas si même j'y vais continuer, j'ai envie de tout arrêter. Si les voisins inconvertis avaient entendu Paul crier comme ça dans son domicile, et quelques jours après, ils viennent frapper à la porte, bon, je m'appelle Paul, j'aimerais vous parler de Jésus-Christ. Ah oui, vous pouvez en parler. Je vous ai entendu dans votre studio l'autre jour, vous râliez sur Dieu parce que vous êtes malade, vous avez une maladie, tout ça, vous êtes fatigué, et maintenant vous venez faire le beau et puis me parler de Dieu. Moi, je sais comment vous pensez de Dieu. Vous êtes amer contre votre Dieu. Pourquoi vous continuez à faire du porte-à-porte? Dans une église, quelqu'un remet en doute son autorité. L'apôtre Paul se fâche. Comment? Mais c'est moi qui t'ai amené au Seigneur, mais espèce d'idiot, mais est-ce que tu ne comprends pas? Tu parles à l'apôtre Paul? Attends, moi je vais écrire la moitié du Nouveau Testament. Hein? Donc tu as intérêt à... Il n'est plus crédible. si on dit à cette personne, est-ce que tu aimerais bien que je te conseille pour que tu retrouves le chemin de la foi? Il va dire, toi, tu t'es fâché l'autre jour à l'église. Tu as traité le chrétien de tous les noms. Qu'est-ce que tu vas m'aider? Toi qui te mets en colère si facilement. On pourrait dire, hé, hey, je me fais pas en colère tout le temps, hein. Là, il m'a poussé à bout, alors j'ai explosé, mais alors, pardonne-moi. Oui, pardonne-toi, bah, oui, c'est ça, mais d'accord, je te pardonne, mais je ne te fais pas confiance. Paul dit non. Dans les tribulations, on montre de la patience. Bon, c'est facile pour moi de vous le dire ici. Ce serait facile pour moi, vous, de me lire le même texte et de me le dire. Nous tous, c'est de faire confiance à Dieu jour après jour pour qu'il puisse produire en nous ses dispositions, cette patience dans toutes ces difficultés. Et donc, il dit la patience dans, sous. Et puis, il dit par la pureté, par la connaissance. Il dit, on se rend recommandable non seulement par son attitude dans l'adversité, mais on devient crédible par le travail que l'on fait pour mieux connaître Dieu. Et dans le caractère, verset 6, la pureté, la connaissance. Imaginez que vous veniez chez moi et je suis en train de regarder un DVD, on va dire X. Et puis, dimanche matin, vous venez et je vous prêche que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables, irrépréhensibles pour le jour de Jésus-Christ. Et je vous invite, frères et sœurs, à être vraiment purs dans votre cœur, dans vos pensées. Et que vous avez vu que j'ai des trucs X chez moi. Vous allez faire, c'est ça mon gars. Je crois ce que tu me dis. Je crois que c'est important. Mais toi, je devrais d'abord balayer devant ta porte, plutôt que de faire le glorieux et venir le dire au culte. C'est pas parce que tu es derrière le pupitre que tu es plus crédible. Parce que moi, je sais ce qui se passe chez toi. Alors, tu ne me la fais pas, la leçon. Et on aurait raison. La pureté, c'est quelque chose de très très important. Par la connaissance, la longanimité, la bonté, l'Esprit Saint, l'amour sincère, c'est les fruits de l'Esprit. Et par la parole de vérité, là, il parle des outils qu'il emploie. La puissance de Dieu, les armes offensives et défensives de la justice, ça c'est la fameuse armure du chrétien en Éphésiens 6. Et dans quelles conditions est-ce qu'il exerce son travail de réconciliation? Verset 8. Eh bien, dans la situation de gloire, quand tout va bien, quand vraiment tout le monde dit que du bien de l'apôtre, et de l'ignominie. Quand tout le monde le méprise et lui fait sentir qu'on le méprise, il reste égal. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, on peut bien penser que l'apôtre ainsi que le Seigneur et tous les chrétiens qui marchent vraiment avec Dieu n'ont pas une mauvaise réputation parce qu'ils l'ont méritée. Ils ont une mauvaise réputation parce que quelqu'un la leur a faite. Quelqu'un a mal parlé d'eux. Du coup, ils ont une mauvaise réputation. Mais, ils continuent à faire leur travail fidèlement. Ils ne se disent pas, attendez, non, vous pensez du mal à moi, il faut que vous changiez, sinon moi je ne vous parle plus. Ils montrent par ses bonnes actions, par sa bonne attitude, par sa patience, par sa persévérance, que sa mauvaise réputation a été fabriquée de toutes pièces et qu'elle n'est pas vraie. Les gens qui ont mal parlé de lui n'avaient pas raison. Vous savez, si on parle mal de David, là-bas, mon ami hongrois, si on parle mal de David, et David arrive, qui a parlé mal de moi? Qui se présente ici devant moi et qui me dise ce qu'il a dit, et il va voir si. Là, c'est pas la bonne réaction. Ah, les gens, ah, mais regardez, on m'a dit qu'il était violent. Regarde, il a la main comme ça. Bon, il est violent. Donc, le gars, il avait raison. Mais si David apprend qu'on a dit qu'il était violent et qu'il reste paisible, les gens vont dire, mais Pourquoi on a dit qu'il est violent? Mais c'est le garçon le plus paisible que j'ai jamais vu. Mais qui sont ces idiots qui ont dit qu'il était violent? Mais c'est pas, mais ça d'être des gens vraiment mauvais pour avoir dit une chose si horrible sur un gentil garçon comme ça. Mais s'il y a aux gens, qui a dit que j'étais violent? Dis-moi les noms. Quand je vois, je vais les voir, je vais régler leur compte. Ah bon, à ce moment-là, on va croire qu'il est violent. C'est très difficile de rester imperturbable et tranquille quand on vous fait une mauvaise réputation. C'est très difficile. Pourtant, c'est la seule solution. Il faut que les adversaires, du moins ceux qui ont entendu la mauvaise critique, se rendent compte par eux-mêmes que c'est faux. Et ils ne peuvent se rendre compte qu'en nous voyant vivre jour après jour. Oui ? Ce n'est jamais facile.
C'est-à-dire qu'on peut s'énerver au début, et puis après demander pardon au Seigneur, et puis
c'est alors oui, si on s'énerve devant trois personnes, si on s'énerve vraiment très fort devant trois personnes, et puis qu'on va demander pardon à Dieu de s'être énervé, mais qu'on ne demande pas pardon aux trois personnes devant lesquelles on s'est énervé, elles ne vont jamais savoir qu'on a demandé pardon à Dieu, elles ne vont jamais savoir qu'on le regrette, et elles vont dire de toute façon, la personne s'est fâchée. Peut-être vous, on va dire, bah, écoutez, j'ai un peu perdu le calme, c'est vrai. Mais l'autre va passer, dire, oui, mais elle s'est fâchée toute rouge, mais elle dit n'importe quoi, elle a perdu son calme, ouais, c'est violent. Parfois les gens exagèrent aussi, hein. Et puis nous on minimise aussi ce qu'on a fait. Mais il est vrai que si on demande pardon à Dieu et pardon aux personnes qui ont été témoins de notre énervement, ils vont reprendre du respect pour nous. Parce que tout le monde est d'accord qu'on peut s'énerver ou qu'on peut faire une erreur. Tout le monde comprend ça. Surtout les enfants, ils comprennent très bien que leurs parents peuvent commettre une erreur. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leurs parents ne leur demandent pas pardon quand ils se rendent compte qu'ils ont commis une erreur. Ça, ils ne comprennent pas. Alors, ils comprennent que, bon, moi, quand j'ai fait une erreur, mon père et ma mère disent, tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Pardon, pardon, pardon. Bon, ça va, ça va. Et quand papa, lui, fait un truc, il ne demande jamais pardon, donc quand je serai grand, je ne serai plus obligé de demander pardon. En disant, je ne lâcherai rien. Je n'admettrai rien. Et le gosse, il dit, c'est pas normal qu'on me demande de demander pardon et lui ne le fait pas, ou elle ne le fait pas. Et donc, ils sont dégoûtés, ils trouvent qu'on est hypocrite et puis n'ont pas tort. En tous les cas, on pourrait continuer longtemps. Mais Paul évoque toutes les situations dans lesquelles on peut passer. Et il maintient cette patience et il se rend recommandable. C'est un gros effort, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail sur soi-même. Mais le ministre de la réconciliation est prêt pour toutes les situations. Comme il dit, il a toujours l'air vaincu, il a l'air tout faible, mais il est capable d'accomplir toutes choses. Certains des plus grands chrétiens du monde sont des gens, vous ne les regarderiez pas deux fois, ils ont l'air vraiment insignifiants. Ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas grands, ils ne sont pas doués. Mais quand ils parlent du Seigneur, ils ont quelque chose que personne d'autre n'a. Et on dit, il y a quelque chose dans cette personne-là. Je ne l'ai pas vu de prime abord, mais il y a un effet qui est produit. Et c'est la puissance de Dieu. Alors, comment peut-on être bâtisseur de pont, réparateur de pont? Comment peut-on exercer ce ministère de la réconciliation? Regardons Hébreux 10. Hébreux 10. Surtout dans le verset 25, on fait un peu plus vite là. Verset 24. Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Mais moi, je ne veux pas qu'on veille sur moi. Vous pensez aux pions au lycée. qui tira avec son œil lynx et vous étiez à l'étude, et puis vous passez le petit papier à vos camarades et vous parliez, et puis le surveillant arrivait, alors tu arrêtes sinon je te jette dans la salle de cours. Et on imagine, veillons les uns sur les autres, c'est que dans l'église il y a des gens qui sont en quatre coins, qui sont en train de veiller pour voir qui bouge. Pas qu'on veille sur moi, mais le veiller ici c'est veiller avec compassion. Veiller comme un maître nageur veille sur les nageurs pour qu'ils ne se fassent pas mal. Comme un papa veille sur son enfant qui est dans le parc. Veiller, c'est être attentif aux besoins des autres. Et pourquoi être attentif aux autres, verset 24, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres? Ça veut dire que nous, chrétiens, on a vite tendance à délaisser l'amour les uns pour les autres. Et puis, à faire du bien les uns aux autres. On a parfois envie de faire du bien aux autres, à certains autres, ceux que nous aimons. Mais les autres, là, dans l'église, on n'a pas envie de leur faire du bien, c'est toujours si on les supporte. Et donc, on doit veiller les uns sur les autres pour nous motiver à faire du bien les uns aux autres. C'est drôle, hein? Verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée ». Alors ce verset est utilisé de bien des manières, souvent nous les pasteurs, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais j'ai entendu même des catholiques qui avaient quand même compris l'évangile et qui avaient reçu Christ comme sauveur et qui savaient que l'église de Rome n'était pas l'église du Nouveau Testament. Et ils ont dit, mais je dois rester dans mon église parce que la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Ou des gens qui sont dans les églises, parfois un peu protestantes, mais qui ont complètement perdu l'évangile. J'y reste pour porter un témoignage. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Le mot n'est pas ecclésia. Ce n'est pas, n'abandonnons pas notre église locale. Le mot c'est episynagogé, qui veut dire, n'abandonnons pas notre, on va dire, super synagogue. Alors, le mot « synagogué », ça veut dire « n'abandonnons pas notre rassemblement ». Et en clair, ça veut dire « n'abandonnons pas ou ne négligeons pas notre habitude de nous retrouver les uns les autres ». On a besoin de se retrouver entre enfants de Dieu. Alors, à la synagogue, ce n'était pas le temple, il n'y avait pas de sacrificateur, il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas l'arche de l'alliance, il n'y avait rien. C'était en local. Et comment est-ce que les synagogues ont commencé? Mais quand leur temple a été détruit à Jérusalem, ils sont partis en captivité à Babylone. Et à Babylone, c'était le pur paganisme. Et les juifs se sont dit, mais si on se mêle à la population, et si on ne se réunit pas entre nous pour lire la Torah, pour lire les prophètes, pour nous encourager, pour réciter la parole de Dieu, pour parler d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le roi David, si on ne se réunit pas pour parler de l'Éternel, notre Dieu, mais on va se paganiser, chacun va partir de son côté, et chacun va devenir babylonien et adorer une idole ou deux, et on ne sera plus le peuple élu de Dieu, et on ne pourra plus jamais avoir notre identité d'enfant d'Abraham. Il nous faut préserver notre identité, il nous faut préserver la pensée de notre Dieu, l'Éternel. C'est d'autant plus miraculeux qu'ils aient eu cette pensée. Que les prophètes, comme Jérémie, Ézéchiel, Daniel et tous ces gens-là, leur ont dit, c'est l'Éternel qui vous punit en vous envoyant en captivité parce que vous avez été idolâtres chez vous. Et là, quand ils sont en exil, ils se rendent compte, mais c'était une bêtise d'être idolâtres quand nous étions chez nous. Et maintenant, on ne va plus jamais être idolâtres. Et à partir de l'exil à Babylone, le peuple juif n'est plus jamais sombré dans ce truc d'idolâtrie. Ils ont été guéris, une fois pour toutes, de l'idolâtrie. Ils ont d'autres péchés, mais au moins pas celui-là. Et donc, ils avaient décidé que là où il y aurait 10 hommes juifs dans une ville, ils auraient le droit de faire une synagogue. Et une synagogue ressemblait beaucoup à nos églises évangéliques, c'est un petit local. D'ailleurs, ils en ont toujours partout dans le monde, des synagogues. Et ils font une réunion le vendredi soir, généralement, parce que le Shabbat commence le vendredi soir. Et qu'est-ce qu'ils y font? Ben, ils viennent, et puis ils lisent un peu la Bible, ils citent le schéma, Deutéronome 6.4, il y a un commentaire biblique, il y a un rabbin, mais le rabbin ne fait pas de sacrifice, il n'est pas un sacrificateur, c'est un peu comme un prédicateur, un peu comme un responsable d'assemblée. Et puis ils prient, et puis après ils se parlent entre eux, ils échangent des nouvelles, et puis c'est une sorte une réunion religieuse, ça c'est clair, une réunion un peu biblique. Et en même temps, c'est une communauté d'intérêt commun. Parfois, on parle aussi aujourd'hui d'entreprise. À la porte, on parle d'affaires, comme les Juifs sont beaucoup dans les affaires. Alors, ils ont un réseau social qui va avec. Mais ce n'est pas le temple, ce n'est pas un sacrificateur. Ça n'a rien de vraiment officiel et comme ça. C'est une réunion fraternelle. Et donc, tous les Juifs connaissaient le fonctionnement d'une synagogue. Et c'était tellement ouvert dans ces synagogues, quand un juif venait d'une autre ville, était visiteur dans une synagogue, on lui disait, mes frères, est-ce que tu n'as pas des nouvelles d'ailleurs, et des choses à nous annoncer, et des choses à partager avec nous? Un peu comme nous, quand on est un visiteur, on dit, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Oui, mais très heureux d'être avec vous, je viens de telle église, et voilà, et tout, on vous donne vos salutations, et transmettez-vous les noms. Mais c'était comme ça que ça. Et c'est comme ça que Paul, chaque fois qu'il annonce une nouvelle synagogue, vous n'avez pas quelque chose à dire, et bien justement, et puis il prêchait l'évangile. Et puis là, les gens se convertissaient ou se posaient à lui, mais c'était toujours ses premières ouvertures à la synagogue. Et donc, il dit ici, n'abandonnez pas votre coutume de vous retrouver ensemble pour vous exhorter réciproquement. Oui ? Quoi? Épisynagogue. D'où va le mot synagogue? Meilleure synagogue. Et donc, nous avons un travail à faire les uns vers les autres, c'est être en contact les uns avec les autres, de nous encourager les uns les autres, c'est ce que fait l'Esprit en nous. Si vous êtes dans une assemblée, et j'espère de tout mon cœur que chacun de vous se trouve dans une assemblée biblique, fidèle au Seigneur et fidèle à la parole, vous avez sans doute des responsables qui sont reconnus, qu'on le nomme pasteur ou ancien, en tous les cas, c'est la même personne, c'est le même travail, et ils sont chargés de veiller sur vous dans le cadre de l'église locale, et tout le monde s'attend à ce que les responsables, pasteurs, ou comment vous voulez l'appeler, ça m'est égal, mais en tous les cas, que ces gens vont vous rendre visite, ils vont prier pour vous, ils vont parfois vous donner des coups de fil, vous avez des problèmes, vous les appelez, ils demandent à la communauté de prier pour vous, et on dit, c'est eux qui doivent faire ce travail. Mais dans le texte, ce n'est pas uniquement eux. C'est ces prédicateurs de la parole dans nos assemblées. Pourquoi? Quel est leur vrai travail? Est-ce que leur vrai travail, c'est de faire le ménage du samedi soir, du culte, pour que ce soit propre? Est-ce que leur vrai travail, c'est d'organiser le repas en commun? Est-ce que leur vrai travail, c'est de réparer la toiture? Non, leur vrai travail, c'est de vous enseigner à faire ce travail-là du verset 25. C'est-à-dire quand nous nous retrouvons ensemble, qu'on ne parle pas uniquement de la pluie et du beau temps. Qu'on ne parle pas uniquement de la bourse à New York ou à Tokyo ou à Paris et combien vous gagnez moins que d'habitude et combien vous avez de factures et combien vos enfants sont misérables ou sont vraiment gentils ou comment votre voisinage vous ennuie. Non, c'est que nous ayons la capacité les uns et les autres de nous encourager, de nous fortifier et quelquefois même de nous reprendre les uns les autres. Oui, mais ça pose un problème. Si une sœur ou un frère vient et me dit, écoute, je t'aime de tout mon cœur et ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais tu ne trouves pas que tu pourrais peut-être venir un peu plus à l'heure aux réunions de l'église? Enfin, en tous les cas, tu nous manques quand le culte commence et tu arrives un peu, mais on aimerait bien tellement que tu sois là avec nous pour tout le culte. Enfin, tu ne prends pas offense, mais tu vois ce que je veux dire? Attends. Au nom de qui tu me permets de me parler comme ça? Toi, tu es un simple frère de l'église. D'ailleurs, si je me souviens bien, Je suis dans l'église depuis 3 ans de plus que toi. Au nom de qui te permets-tu? C'est le pasteur qui t'a envoyé. Ah, il n'a pas le courage de venir me voir directement. Il t'envoie. Ouah! Qu'est-ce que nous sommes en train de faire là? Nous sommes en train de décourager ce chrétien de faire son travail. Il va rentrer chez lui, il va être tout défait, il va pleurer, il va dire « Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas trouvé le mot qu'il faut, je ne sais pas, je n'ai pas pu sourire peut-être suffisamment, peut-être mon ton était mauvais, Seigneur, pardonne-moi, et vraiment, Seigneur, je décide, je ne pécherai plus, je n'essaierai plus jamais d'aider un frère ou une sœur en Christ en lui disant quelque chose comme ça. Je lui parlerai de la pluie du bon temps désormais, Seigneur. » Est-ce que ce n'est pas tragique, ça? Et c'est comme ça que ça se passe, je sais bien.
Ou alors, ils font des excuses et tout ça.
Oui, bon, comme des excuses, et il ne faut pas non plus être plein de jugement. Oui, écoute, de toute façon, ce n'est pas la peine que tu me dises. Hein. Moi, je sais que tu es en retard parce que tu es paresseux. D'ailleurs, le Saint-Esprit me l'a montré ce matin quand je priais. Dis à un tel qu'il est paresseux. Donc moi je le dis tout net, non, il ne faut pas non plus prendre comme ça. Mais on a beau prendre les gants, mais les gens qui n'acceptent rien. Rien. Est-ce que vous vous acceptez quand on vous parle? Ça aussi on doit se poser la question. Bien sûr. Mais c'est vrai que si quelqu'un vient nous reprendre, maintenant ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration. La première chose qu'on devrait dire, c'est d'avoir merci, d'avoir le courage de venir me trouver. Je sais que c'est très difficile de reprendre quelqu'un, ou même de faire une suggestion à quelqu'un. C'est très difficile. C'est beaucoup plus difficile d'aller le trouver que de l'entendre. Et puis, si on n'a pas une bonne réaction, on peut au moins dire ceci. Écoutez, merci de m'avoir parlé, je prierai à ce sujet. Je ne décide rien, je ne te promets rien. Ça c'est le truc bien, hein. Je ne te promets rien, mais je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Je vais prier à ce sujet. On n'est pas obligé de dire, oui frère, tu as raison, je suis un pauvre pécheur, j'arrive en retard, je suis paresseux. Non, la première réaction généralement n'est pas bonne. Attends, tu te permets, attends. Tu crois que tu te mêles? Ça, c'est le mot qui met fin à toute discussion. Puis pardonne-moi, ben oui, tu as intérêt, hein, parce que c'est pas ta vie, hein, que je sache. C'est la mienne, hein. Et puis c'est pas toi qui vas répondre pour moi, c'est moi qui vais répondre devant Dieu pour moi-même. Donc, je me débrouille avec lui, toi tu as intérêt à te demander pardon d'être venu me parler comme ça. Pas l'heure du culte, mais quelle idée. Vous avez de la chance que je vienne ici déjà. Je pourrais être dans une autre église, mais je fais la grâce de venir ici chez vous. Alors, hein? Non, mais là j'exagère. Mais c'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile. Alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et c'est tragique. Plusieurs dizaines de personnes entrent par la même porte. Ils s'assoient, ils partagent les cantiques. Tout est positif. Tout le monde surveille son langage. Tout le monde surveille son visage. Tout le monde fait le sourire évangélique. Bonjour, ça va frère? Et puis, bon, ça s'est passé sans histoire. On a fait le culte. Le message était bon. Je n'ai eu de brouille avec personne. Mon dimanche a été réussi. On a eu, le pasteur dit, il ne s'est rien passé de mauvais. C'est bon. Maintenant, j'ai une semaine avant l'année prochaine, avant la semaine prochaine. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Nous devons être humbles et accepter que les autres nous parlent et nous parlent les autres. Et puis peut-être écouter. Mais tu sais pourquoi je suis toujours en retard? Non, mais parce que j'ai une mère qui habite chez moi et l'infirmière vient à 9h45. Elle fait la piqûre et je dois rester là jusqu'à après la piqûre et après je peux venir à 10h. C'est pour ça que j'ai toujours 3 quarts d'heure de retard. Si elle pouvait venir plus tôt, je viendrais, mais... Ah, d'accord, ah oui. Oh, mais on va prier pour ça. Déjà vous avez appris quelque chose. Parce que sinon, on dit, ouais, toujours en retard, celle-là ou celui-ci, c'est pas possible, je sais ce qu'ils font, ils restent au lit comme ça, ils ne pourraient pas aller au lit plus tôt. Et si ça se trouve, il reste jusqu'à minuit à regarder des mauvais films chez lui. Si ça se trouve, c'est comme ça que ça se passe. Ça que je n'en douterai pas que c'est comme ça. Et on a toutes sortes d'idées qu'on va partager avec un frère et une sœur aussi, hein. Parce que la théorie, il faut savoir la peine d'être répandue. puis la personne entre, et puis en quelqu'un d'indiscret, ça revient, parce que ça revient toujours. Oui, alors comme tu regardes les mauvais films le samedi soir jusqu'à minuit, et comment je regarde mauvais, ben oui, enfin, j'ai entendu ça, là, il y a une rumeur comme quoi, tu... Mais qui est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, c'est un tel qui... Alors... Ah, mais si c'est comme ça, cette église, des rumeurs comme ça, ils ne savent pas que je m'occupe de mon père, là. Non, mais attends, ils se croient, prennent pour quoi? Moi, c'est fini dans cette église, c'est une bande hypocrite. Terminé, basta. Et tout a démarré sur quoi? En manque de faire ce travail de réconciliation. En manque d'ouverture, un esprit de jugement, des idées qui sont formulées sans information. Mais c'est horrible. Et vous savez pourquoi les gens quittent les églises? C'est pour ces raisons-là. C'est très rare que le pasteur s'est détourné de la vérité, il ne croit que Jésus n'est plus le Fils de Dieu, j'ai quitté. Ça, c'est très rare, très rare. C'est plutôt des histoires pareilles. Alors, ça demande énormément de maturité et ça demande énormément d'humilité. Mais il dit, ne négligez pas de vous retrouver. Et si vraiment on veut que ça se passe bien quand il faut reprendre quelqu'un, il ne faut pas juste aller le voir quand on a un truc à lui dire qui est un peu négatif. Il faut maintenir un contact fraternel, fait 99% du temps par de bonnes choses, par de bons partages, et bâtir une vraie relation de frère-sœur avec lui, et qu'on se fasse vraiment confiance. Et là, la petite question, ça passe comme une lettre à la poste. Parce que la personne sait que nous l'aimons, qu'on a confiance en elle, et la personne a confiance en nous, on est vraiment liés. Alors parfois, on est obligé de passer par une casse. Tiens, tu sais, une telle, ça me chagrine, est-ce que tu ne pourrais pas lui toucher deux mots, toi qui le connais bien? Oui, moi je peux lui en parler, on parle de tout sans problème. Bon, mais c'est bien. Mais bâtir des ponts. Le problème dans l'Église, c'est que nous ne nous sommes pas choisis les uns les autres. Le pasteur n'a pas dit, je vais faire une liste de mes meilleurs amis, des gens que j'estime le plus, et je vais en faire des membres d'Église. Et ça, c'est une liste de gens que je ne supporte pas, la tête ne me revient pas, et je ne les aime pas, je ne les aime pas, c'est tout, c'est viscéral, c'est plus fort que moi, je ne supporte pas cette personne-là, je ne lui permettrai pas de venir dans mon Église. C'est pas comme ça que l'Église de Jésus-Christ se constitue. Des gens passent par la porte, ils sont perdus, ils entendent l'évangile, ils se convertissent, et vous dites, non, celui-là, je vois déjà que c'est un problème avec lui. Et il va se joindre à l'église, pasteur, il va être baptisé. Oui, il a demandé, t'as trouvé le membre? Oui. Oh non, une assemblée générale avec cette personne-là, je ne pense pas que je vais survivre. Bon, et, pasteur, j'ai toujours des choses à faire, je pense que je ne pourrai plus venir aux assemblées générales de l'église parce que pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des choses à faire. Hein. Mais en fait, c'est parce qu'un tel va être là. Mais c'est incroyable. Tout ça, c'est la chair. C'est nos sentiments naturels. C'est nos émotions naturelles. Et c'est naturel. Et c'est viscéral. Mais ce n'est pas conforme à la parole. Donc, le ministère de réconciliation, on a beaucoup de choses qu'on pourrait voir. Oui, il est 11h15. Mais tu me reprends ou quoi? C'est bien. Jean 13. On va finir avec ceci. Jean 13, 14 et 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il y a un groupe évangélique qui font vraiment le lavage des pieds tous les 3 mois quand ils font le repas du Seigneur. Tous les 3 mois, 4 fois par mois, ils ont le repas du Seigneur et le lavage des pieds juste avant. Hommes, des hommes lavent les pieds des hommes, les femmes lavent les pieds des femmes dans 2 pièces différentes, c'est ça, très correctement. Mais c'est des gens très bien, généralement d'un assez haut niveau social, des gens que je connais, et des gens vraiment attachés à la parole. Est-ce que vous croyez que les hommes et les femmes de ces assemblées disent, tiens, dimanche prochain, la sœur ou le frère va me laver les pieds, donc là je ne vais pas les laver pendant la semaine pour qu'ils vraiment le croient laver. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? Moi, je pense que juste avant d'aller à cette réunion de lavage des pieds, chacun doit sans doute se laver les pieds soigneusement, mettre de nouvelles chaussettes toutes fraîches, mettre un coup de parfum dessus s'il le faut, pour que quand on enlève les chaussures et les belles chaussettes, les pieds soient immaculés, et c'est une formalité. Hein? Donc, quand le Seigneur dit, je vous ai lavé les pieds, et je veux que vous laviez les pieds les uns aux autres, sans doute il ne voulait pas dire, littéralement, vous lavez les pieds les uns aux autres. Quoiqu'à cette époque-là, c'était bien, mais qu'est-ce qu'il veut dire laver les pieds? Mais on a tous des petites souillures qui s'attachent à notre âme pendant le voyage de la vie. Maintenant, on roule dans les voitures air conditionnées, il n'y a pas beaucoup de souillures des pieds quand on marche sur la route. Mais quand nous, moralement, quand nous sommes dans ce monde, il y a beaucoup de poussière, de péché, de convoitise, de mondanité qui vient s'attacher à nous dans notre marche quotidienne. Ce qui fait que nous adoptons parfois les attitudes du monde, parfois nous adoptons les réactions du monde, parfois il se glisse dans notre vocabulaire des expressions du monde qui ne sont pas toujours très propres, et on est un peu souillé, un peu sali, un peu empoussiéré par les choses du monde. Et c'est tellement imperceptible qu'on ne se rend presque pas compte. Et on a besoin d'un lavage. Mais on ne le voit pas soi-même. On ne voit pas le problème. Mais ce sont les autres qui voient le problème. Et c'est eux qui doivent venir nous dire qu'il faut faire un brin de toilette, là, spirituellement, se mettre un peu en forme, laver un peu cette attitude de mondanité, enlever ces mots qui ne sont pas vraiment très, très corrects, et abandonner certaines attitudes, un peu de revendication, de râlerie, qui n'ont pas leur place dans la vie chrétienne, et c'est eux qui doivent le faire, pour nous. Puis ça nous gêne. Puis ça les gêne encore plus que nous, de devoir le dire. Et puis Dieu nous met à cœur de parler à quelqu'un. Je me souviens, j'avais un très brave diacre. Bon, ça c'était vraiment physique. Il avait une très très mauvaise haleine. Et comme en France, comme disait Laurence, on ne se donne pas la main simplement, on se fait la bise. Quand la bouche passe à côté de vous et pim pam, si vous avez... Et alors c'était drôle parce qu'il sentait que les gens avaient un peu de réserve à lui faire la bise et ne comprenait pas, et ça lui causait beaucoup de problèmes. Comme c'était un célibataire, il n'avait pas madame pour lui dire, mon chéri, ton haleine a besoin de... Non. Et il ne se rendait pas compte. Et un jour, je lui ai lavé, pas les bouches, pas les pieds, mais plutôt l'haleine. Je lui ai dit, frère, tu sais, tu as une mauvaise haleine, et je pense que c'est la raison pour laquelle certaines personnes ont des difficultés à te faire la bise, alors qu'ils t'aiment tous, et puis... Écoute, c'est une question de microbes qui se multiplient. Chez les uns, c'est certain, pour d'autres, mais il y a des rinçages de bouche et tout ça. Et il m'a remercié. J'ai trouvé ça magnifique. Il m'a remercié. Et le dimanche d'après, il a dit, j'ai acheté une bouteille, tu sais ce que tu m'as dit, et tous les jours j'en mets, et comment ça va maintenant? Oh, impeccable. Et il était tout heureux. Et tout heureux. Mais il fallait que moi j'aille lui dire parce que personne d'autre n'aurait osé le faire. Mais ça c'est de manière en sens réel, bâtir un pont. C'était de rendre l'accès à ce frère plus facile pour les autres en enlevant un obstacle dont la personne n'était pas consciente. Et très souvent, dans ce ministère de réconciliation, on va traiter les questions qui nous gênent nous, mais dont la personne elle n'est pas consciente. Pendant les camps, on a un truc de linge, alors on lève le linge qui a été lavé. À qui ça appartient? Hein, Muriel est au courant, elle a fait ça pendant des années. À qui appartient ce beau pull bleu, clair, tout ça? Et puis les campeurs le regardent. Puis c'est rare que le campeur à qui ça appartient reconnaisse son propre vêtement. Il ne le regarde pas, il est sur lui. Mais ses camarades savent, ah mais oui, on a vu ça sur un tel. Il y a 3 jours, il a porté. Certains, ils observent les vêtements de tous les autres campeurs et peuvent vous dire quel jour ils ont porté. C'est incroyable. Et ce pantalon, mais ça appartient au camarade là-bas, il l'a porté avant-hier, je me souviens très bien. Parce que les autres nous voient mieux que nous nous voyons nous-mêmes. Et c'est dans le regard des autres qui a plus de vérité que notre regard sur nous-mêmes. D'où le besoin impérieux, selon Jésus, d'avoir ce ministère les uns envers les autres. L'une des meilleures formes, comme Adrien l'a proposé, on l'a fait, je pense qu'on va le refaire aujourd'hui, mais ce temps de prière. Quand on peut aider les chrétiens à dire eux-mêmes leurs vraies préoccupations et susciter de la prière des autres pour eux, ça montre qu'ils sont dans un état d'humilité où ils savent qu'ils ont besoin de l'aide des autres. Et ça, c'est un panneau qui devant leur porte qui dit « Tu peux me parler de mes besoins spirituels. Tu peux me conseiller. Je suis ouvert à ce que tu auras à me dire. Je ne te repousserai pas. Je veux avancer. » Et finalement, la question est celle-ci. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux avancer? Et est-ce que je suis prêt à écouter les conseils de n'importe qui que Dieu met sur ma route et examiner ce qu'il dit en vue d'avancer? Ou est-ce que je suis surtout préoccupé par mon opinion de moi-même? Voyez ce que je veux dire? Donc Dieu nous met dans une église pour bâtir notre maturité spirituelle. Oui?
Ce que tu dis là, moi je dis souvent à Pierrick, mon fils, arrête de te prendre le nombril du monde et ne pense pas que tout doit tourner autour de toi. Et plus j'y réfléchis et plus je me dis que nous, on a aussi besoin de ça, de penser aux autres, mais sans chercher nos besoins à nous, mais vraiment satisfaire.
Oui. Amen. Oui, Sylvie.
Une réunion une fois, et celui qui prêchait disait il faut prendre le plan PMS quand on nous dit quelque chose. Pardon, parce que j'ai fait ça, merci de me l'avoir dit, et après silence.
C'est bien. Pardon, merci et silence.
Oui,
ouais, ça c'est bien. Le silence peut nous permettre de vraiment éviter de dire de grosses bêtises qu'on regrette. Hein. Quand on ne sait pas vraiment ce qu'il faut dire, il vaut mieux ne rien dire. Très bien. Notre Dieu et Père, merci pour ce passage de ta parole et pour l'enseignement de l'apôtre qui s'applique à nous de manière tout à fait actuelle. Et quel besoin immense dans nos églises et parmi nous que de vivre de ces relations de vérité. Et merci parce que même dans ce camp, même si nous venons d'églises différentes à travers le territoire national, nous sommes dans le corps du Christ et nous avons la possibilité et le privilège de nous faire du bien réciproquement et vivre un peu ce ministère de réconciliation au milieu de nous. Gloire à ton nom. Amen.